Du 15 février au 9 mai, célébrez le 20e anniversaire des Francouvertes. 21 formations et artistes à découvrir, des invités surprises, des tirages, tout est en place pour fêter. Soyez au rendez-vous du concours vitrine de toutes les musiques pour faire le plein de nouveautés musicales. Pour tout savoir, visitez francouvertes.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
To Eat, c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah!
Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres.
Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce 83e épisode de Pop en Stock, le podcast, votre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de choc.ca, où l'on décortique et suranalyse tout objet, événement ou phénomène de la culture populaire. Pop en Stock, c'est aussi, et je vous le rappelle, un site web qui publie des recherches, une collection d'essais aux éditions Tamar, une série de rencontres live, ainsi que dans un avenir pas trop loin, un booktube et une tournée pan-québécoise. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais c'est avec chaque once de ludogistie que j'accueille aujourd'hui en studio. Pas Hélène, je pensais qu'Hélène était pour être là, mais elle n'y est pas. Donc, ça va me faire vraiment plaisir d'accueillir notre collaborateur occasionnel qui s'est joint à nous notamment pour l'épisode de Star Wars. Alexandre Poirier, bonjour.
Salut, salut.
Allô. Et de plus, il nous fait un immense plaisir d'accueillir deux nouveaux collaborateurs à Pop en Stock. Diego, qu'on a mentionné quand même assez souvent, Diego Lamana, bonjour.
Bonjour.
Qui est présentement en train de compléter la mineure en études théologiques. Non?
À l'Université de Montréal, en cinéma et jeux vidéo.
OK, ben tu termines.
En premier cycle, oui, je commence le deuxième cycle éventuellement.
Félicitations. Et aussi, Samuel Bourassa, qui a eu le parcours similaire, en fait?
Oui, la mineure en études jeux vidéo, puis là, je termine une majeure en études anglaises.
Oui, oui, ça va faire des intéressants travaux.
Tout à fait.
Bonjour. Donc, bonjour, en fait, aujourd'hui... Ben en fait, c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine dernière qu'on fêtait le 25e anniversaire de la création du studio de jeux vidéo Blizzard. Et bon, puisqu'on aime ça faire la fête ici à Pop en Stock, on s'est dit que ça serait génial de souligner l'importance de cette compagnie. Je pense que vous l'avez un peu déduit, chers auditeurs, qu'on va parler de jeux vidéo aujourd'hui, notamment par le crédit des individus qui sont ici présents.
Entre autres.
Ah oh, oui, c'est vrai, effectivement, oui. Donc, on va parler essentiellement l'importance de la compagnie. Le rayonnement de la compagnie aussi, comment est-ce que c'est greffé une place d'importance dans l'imaginaire collectif. Blizzard, c'est vraiment le type de compagnie de jeux vidéo que même les gens qui ne jouent pas à des jeux vidéo connaissent, notamment par toutes les inclusions en culture populaire, je pense à l'épisode de South Park. Mais il faut le mentionner, né le 8 février 1991 sous le nom de Silicon and Synapse, que je trouve qui est vraiment intéressant comme nom. Ça dit beaucoup des intentions des trois créateurs de vouloir faire progresser le domaine du jeu vidéo, du moins de voir une augmentation de la qualité de la production des jeux. Ces trois créateurs-là qui sont Michael Morhaime, Frank Pierce et Alan Adham, je le prononce comme il faut? Yes! qui sont trois gradués de l'Université de Californie, qui ont commencé à faire rapidement avec Silicon and Synapse. La compagnie a commencé à faire des ports, en fait, en langue... Pour simplifier, le port, c'est l'importation d'un jeu à une autre console. Reprenez-moi, parce que je suis pas 100% un expert par rapport à ça, donc si je dis une cochonceté, dites-moi là. De même qu'on a fait aussi avec l'épisode sur les synthétiseurs, je suis comme... Corrigez-moi, s'il vous plaît.
Ça a de l'air à date.
Donc, les ports, c'est ça, ils commençaient avec des... quand même fort, là, qui ont commencé avec la franchise de Tolkien. Enfin, ils ont fait un port de Lord of the Rings. Aussi, un port de Battle Chess, que moi, je me rappelle d'avoir joué quand même beaucoup.
C'était fascinant à l'époque.
Qu'est-ce qui est Battle Chess?
Oui, c'était
magnifique. Malade.
C'est, oh, oui.
C'est le jeu d'échecs qui avait des animations de décès pour chacun. Oui, puis oui. Eux autres, ils ont fait le port du deuxième, qui était les Chinese Chess. Fait que là, Chinese Chess, j'ai pas joué, mais j'en conjure l'espèce d'imaginaire samouraï vraiment débile là, de tuiles qui sort des gaijin qui slashent nos tuiles en deux. Ça doit être complètement malade. Mais ça a moins marqué mon imaginaire que les deux grandes productions, en fait, les deux premières productions auxquelles on crédite ces créateurs-là de Silicon and Synapse. Rock'n'Roll Racing de 1993, que si Pascal Darèche écoute l'émission, je veux faire un peu une Saint-Valentin en retardement et dire, mon amour Pascal, est-ce que c'est le premier jeu auquel on a joué ensemble cette soirée où tu m'as narré Resident Evil au grand complet? Parce que j'ai un ami d'enfance que la première rencontre qu'on a fait, ben non seulement c'est un ami d'enfance, mais c'est aussi... le gars qui a créé la première émission en choc qui portait du jeu vidéo, multijoueur, à laquelle j'ai participé, le premier soir qu'on a passé ensemble dans un party, il m'a fait un walkthrough verbal de Resident 1. Wow. Mais vraiment, là, comme assis sur un lit, j'avais peut-être la troisième bière que j'ai bu de ma vie dans le corps, puis lui était comme, puis là, tu vas chercher l'écu d'aigle, puis là, tu descends, tu t'en vas le mettre là.
C'est mon genre de party, ça.
C'était hallucinant. Puis, en faisant la recherche, j'ai vu Rock'n'Roll Racing, puis je suis comme, oh my God, c'était-tu ce jeu-là, le Hot Wheels miniature ou Uniracers auquel il jouait? C'est potentiellement Rock'n'Roll Racing. Puis c'est aussi où j'exprime aussi un sincère regret que Hélène ne soit pas à l'émission, parce que c'est le type de jeu que Hélène aimerait plus que n'importe quoi d'autre. Notamment par la couverture qui arborait un soloïs métalleux avec une jambe sur chaque véhicule qui se rue à toute vitesse, un Jean-Claude Van Damme avant l'heure. C'est un jeu que j'avais oublié vraiment, mais que là, je ne peux plus nier l'influence sur ma personne. C'est un jeu de course à perspective isométrique. Je pense qu'il n'y avait pas énormément à cette époque-là. Puis c'est pour ça que je me mélange aussi avec le Uniracers qui l'était de cette manière-là. C'est aussi dans les premiers jeux de course compétitifs. Premier jeu de course où ce que ton objectif n'est pas simplement de gagner la course, mais aussi de bump off le gars, monter tes défenses. Diego, tu parlais qu'il y avait des éléments d'RPG, mais tu vas y revenir un peu plus tard.
Oui, ben, il y avait un système de points et d'argent aussi pour faire l'amélioration des véhicules.
OK, c'est ça. Ça fait que tu fais Pimp Your Ride, en quelque sorte. Mais bon, quand je dis que c'est un jeu de course compétitif, mais ça prédate Mario Kart, puis ça prédate Twisted Metal, et ça prédate clairement Twisted Metal Black. Mais t'as vraiment, vraiment une influence forte de Rock'n'Roll Racing sur Twisted Metal, notamment que t'avais des personnages comme Snake Sanders, qui était basé sur White Snake, t'avais Cyberhawk, donc c'est tous des noms que je suis sûr que, t'sais, qui rappellent, je veux dire, on pourrait faire des tests de est-ce que ça vient de Rock'n'Roll Racing ou est-ce que ça vient de Twisted Metal Black, puis les gens pourraient s'y confondre.
Est-ce que ça serait possible que Snake Sanders... soit inspiré du personnage de Kurt Russell dans...
Snake Plissken, c'est possible. Ça. On mentionne que ça serait par rapport à la musique, parce que la trame sonore, elle est devenue en quelque sorte légende. Elle comportait des tunes de Sabbath, des Purple, Steppenwolf, du George Thorogood et du Henry Mancini, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Est-ce qu'il y a du deuxième gros titre influent qui, pour moi, est comme a pondu un œuf assez roux et assez barbu dans ma tête? C'est Lost Vikings, qui est, étrangement pour moi, ça fonctionne pas tout à fait, mais pour moi, il n'y a pas vraiment Battle Chasers sans... comment que ça... Oh merde, Battle Chasers, c'est le titre de la bande dessinée, je me trompe.
Ouais, de Joe Madureira.
Ouais, exactement. Ouais. Je pense au jeu... ben, il n'était pas gratuit, en fait. Malheureusement, tant qu'à pas être capable de le dire comme il faut, je le dirais pas, mais ça là, son leg sur ces petits jeux type Mario, très agréable, où, bon, encore, on est capable de développer le personnage avec des XP, avec des épées, vraiment vraiment développé. Lost Vikings, c'était pas mal dans les premières incursions de ce type de jeu-là. Je pense aussi à Lost Axe. C'est ça? C'est Lost Axe. Hein?
Golden Axe?
Golden Axe, merci. Yes! OK. et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est en 94, lorsqu'ils sont acquis par Davidson & Associates pour un, dans un contrat de 6,75 millions de dollars, que la compagnie a dû changer de nom. Elle est devenue rapidement Chaos Studios. Et là, ils ont réalisé qu'il y avait déjà un Chaos Studios. Fait qu'ils ont fait « on va trouver autre chose ». Et ils sont devenus Blizzard. Quand ils sont devenus Blizzard, ben, c'est là où l'histoire avec le grand H a commencé. Et j'invite Diego à l'instant à venir nous introduire à cette grande histoire du studio oui, Blizzard.
C'est un excellent point pour poursuivre.
Je te mets en spot là, j'étais comme tout.
Ouais, mais c'est, ouais. Il manque juste un petit peu mon introduction. Là, je vais faire un petit retour en arrière pour revenir à pour
c'est
enchaîner sur ta
vraiment
phrase.
Vraiment correct pour prendre donc, un pas en arrière pour faire un deux pas de dash.
Mon intervention est essentiellement axée sur une vision de l'histoire du jeu vidéo et du digital play. Du livre de qu'on peut trouver dans le livre dans les premiers chapitres du livre de Klein, Dyer, Witteford et DePuyter, Digital Play, The Interaction of Technology, Culture and Marketing. Donc essentiellement les auteurs conçoivent vraiment que le jeu vidéo doit être considéré selon les trois circuits. Donc c'est comme des roues qui se tournent et qui sont qui s'interprénètrent et se dynamisent mutuellement. Donc le jeu vidéo peut être comme une technologie, c'est-à-dire vraiment comme un artefact. Donc, vu comme un média de masse qui est construit par le contexte social-économique et en même temps le construit. Comme une marchandise, le jeu vidéo peut être simplement comme une marchandise que l'on vend. Et aussi comme un objet culturel qui véhicule un message, donc on peut l'encoder ou le décoder. Donc, moi, je vais faire un survol de l'histoire de la compagnie Blizzard en voyant les innovations et la réussite qu'ils ont fait selon ces trois éléments. Donc, comme le disait Jean-Michel sur Rock'n'Roll Racing sur The Lost Viking, on voit vraiment qu'il y a une hybridation de genre. Rock'n'Roll Racing, on l'a mentionné. Pour Lost Viking, c'est vraiment une simplification du jeu de puzzle PC, notamment de Lemmings, avec une complexification du jeu de plateforme, avec trois personnages qui ont des actions différentes et qui sont nécessaires à la résolution des tableaux. D'un point de vue technologique aussi, c'est les premières années de Blizzard, on les voit faire certaines innovations d'un point de vue technique, notamment dans Lost Vikings, ça a été nécessaire pour Moreaim de créer un logiciel de level design pour créer les puzzles et les tableaux du jeu. Et éventuellement, le logiciel évolue et on va le retrouver intégré dans les Warcraft et dans les Starcraft pour que les joueurs construisent leur propre carte de jeu. Donc, il y a vraiment un lien technologique entre une infrastructure logicielle qui est faite pour construire un jeu qui devient elle-même une partie du jeu. Aussi mentionner les innovations technologiques pour un jeu Blackthorn que tu n'as pas mentionné. C'est un autre jeu qui est un plateforme un peu Contra, mais en plus puzzle.
Oh!
Ce qui est fort intéressant, c'est qu'ils ont utilisé la rotoscopie comme dans Prince of Persia et que c'est justement Pierce qui est le personnage principal.
Pierce.
Le cofondateur.
Ah ouais, ouais, OK.
C'est lui qui a filmé et qui a redessiné par après. Donc, la rotoscopie, c'est qu'on filme les images et ensuite on les redessine pour faire...
on trace par-dessus les mouvements.
On trace par-dessus le mouvement pour recréer un mouvement beaucoup plus fidèle qu'un simple dessin. Donc, c'est des genres d'innovation qu'on fait dans les premiers temps pour vraiment innover dans les jeux vidéo. C'est ça, d'un point de vue culturel que tu n'as peut-être pas mentionné, Jim, c'est que Rock'n'Roll Racing et The Lost Vikings ont gagné Games of the Year. Pour le premier pour le race game et le deuxième pour le jeu de puzzle en 93.
Lost Vikings est un jeu est considéré comme un puzzle?
Oui, moi je le considérais comme un platformer puzzle, ouais. Mais à l'époque il était considéré comme un puzzle game.
Donc ça serait, sans vouloir diverger ton point, est-ce que tu as l'impression que c'est avec Blizzard qu'on a commencé à consacrer l'hybridité des genres dans le jeu vidéo?
Ah, j'irai pas jusque-là.
Non, OK, parfait.
Je crois qu'il y a déjà des éléments d'hybridation qu'on peut remonter bien avant.
Mm. En fait, surtout qu'au début, les genres n'étaient pas aussi définis.
Oui,
c'est ça,
c'est beaucoup plus fluide.
Effectivement. Je pense à Bayou Billy, puis comment chaque tableau est un type différent, puis je me contredis moi-même. Mais je voulais mentionner Bayou Billy.
Ah non, pas Bayou Billy.
Je trahis mon âge.
Donc, pour poursuivre vraiment sur ce que Jim parlait à la fin sur l'alliance avec Davidson,
oui.
Ce qui est fort intéressant, c'est que Davidson ont laissé, c'est vraiment là qu'ils ont innové d'un point de vue de marketing, à mon avis, Blizzard, c'est qu'ils ont vraiment cédé tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente à la compagnie Davidson en se gardant les creative control de leur jeu. Sauf, comme tu le mentionnais, le nom de la compagnie. Là, tu disais, oui, effectivement, Silicon et Synapse, c'était un bon titre. Par contre, le monde pensait toujours aux implants mammaires.
Non.
À cause du silicone. Faut qu'on se remette dans les années début 90. Ouais. Le silicone servait essentiellement à ça. Donc là, ils ont essayé Chaos Studio. Ça marchait pas. Après ça, ils ont eu l'idée de Ogre Studio. Mais Jana Davidson, qui est la femme... C'est un couple, les Davidson, qui s'occupe de la compagnie. Et la femme avait beaucoup d'importance dans la compagnie comme pas CEO, mais comme président de la compagnie, je crois. Et elle aimait pas, elle trouvait que c'était un petit peu épeurant comme nom. Donc, ils ont se sont finalement arrêtés sur Blizzard. Ils ont aussi pas choisi Midnight Studio parce que ça faisait peut-être un petit peu trop pornographique.
Ouais.
Donc, en tout cas.
C'est comme un thème qui revient souvent, je trouve.
Ouais, c'est ça. Mais Ogre Studio, ça me fait penser à un jeu, justement, un War Games de Steve Jackson Games des années.
Ogre Battle.
Ogre Battle?
Ouais.
Le jeu de combat tactique, là.
Man, avec
un super jeu.
Ouais, ça, c'est un bon
jeu. Non, mais pas Ogre Battle, c'est vraiment Ogre. C'est un système de jeux de société de Steve Jackson Games du début des années 90. Puis c'était vraiment un War Games avec des tanks.
Parce que là, t'as parlé d'une Battle.
Ouais, Ogre Battle. Non, c'est ça.
Ça me faisait plaisir, là.
Oh, man, j'ai tellement 5 des heures dans ce jeu-là. OK, pardon.
Bon, enchaînons. Donc, c'est ça, d'un point de vue que... Donc, ça l'a permis un peu de stabilité financière parce qu'à l'époque, Blizzard avait beaucoup de problèmes financiers. Les trois cofondateurs payaient leurs employés avec leur marge de carte de crédit, essentiellement. Et ça, jusqu'à la traite du contrat avec Davidson, que là, ça leur a permis vraiment d'avoir de l'argent, d'avoir des liquidités. Ouais. Ils ont même emprunté de l'argent à leurs parents pour assurer la pérennité de l'entreprise à l'époque. Donc, ils se sont vraiment donnés. Donc, ça leur a permis une certaine viabilité économique et de pouvoir continuer à travailler sur des idées, notamment Warcraft, qui vient en 1994, qui est fortement inspiré du jeu RTS Dune 2, mais aussi de l'univers fantastique de Donjons & Dragons. Il y a certaines innovations dans la jouabilité, c'est-à-dire la jouabilité en temps réel, le multijoueur, c'est pas le premier par contre, la sélection de plusieurs unités en même temps, qui était vraiment une révolution pour le RTS, et l'ajout de missions différentes, c'est-à-dire hors du pattern général du RTS, qui est-à-dire d'amasser des ressources, construire une base et une armée, et ensuite détruire son adversaire. D'un point de vue technologique, le fait de jouer multijoueur, ils ont dû créer eux-mêmes toute l'infrastructure pour le permettre, mais c'était uniquement un contre un à l'époque. D'un point de vue un peu qui mélange les trois secteurs, il y a aussi les cinématiques qui commencent véritablement à être, avec Warcraft 1, une des renommées de la compagnie et qui dure encore aujourd'hui, notamment la cinématique du début du jeu. Et aussi, entre chacune des missions, il y avait vraiment un zoom-in sur la carte qui était vraiment magnifique pour l'époque. Et tout ça était fait à part une seule personne.
Ah!
Oui, je me rappelle plus du nom. On peut le voir dans la Retrospective, Blizzard Retrospective. C'est un gars qui était en charge de toutes les cinématiques.
Wow!
Parce que c'était le seul qui maîtrisait le programme 3D.
Aïe.
Les autres artistes, il y avait de la misère encore avec le 3D, donc c'était plus difficile.
Hey, c'est fort, ça!
D'un point de vue marketing aussi, c'était à noter qu'en 95, c'est le lancement du site Internet de Blizzard. C'est vraiment au début de la démocratisation d'Internet, 95. Donc, ça devient vraiment un outil de communication et de marketing important pour la compagnie. Et aussi, d'un point de vue technologique, il embarque dans les nouvelles vagues. Warcraft, d'un point de vue critique et commercial, n'a pas été un aussi grand succès que les jeux qui ont suivi. Par contre, c'est quand même moyen. C'est surtout qu'en 96, avec le Warcraft 2, la suite, que les records commencent chez Blizzard d'un point de vue marketing. Il va y avoir plusieurs millions qui vont être nommés dans les prochaines minutes. Donc, Warcraft 2, donc décembre 95 et tout de suite après Dark Portal, l'expansion en mai 96. Et à la fin d'année 96, Blizzard avait vendu déjà 1,2 million de copies vendues, qui était à l'époque le record pour PC.
Ah oui.
En 96.
En 96?
Oui.
C'est très impressionnant, en fait.
D'un point de vue technologique, il y a encore des innovations sur le jeu en ligne, qui est encore une récurrence dans l'histoire de Blizzard, qui permet maintenant jusqu'à 8 joueurs en ligne par modem. Et par expérience personnelle, c'était extrêmement fluide, même si on roulait un 28K à l'époque, quand on jouait à 3 ou 4 personnes, ce qui était assez fascinant.
Qui avait réussi à soutirer le maximum de la technologie de l'époque. Ouais. Là, il était vraiment bon à...
Ouais. Ouais. Donc, évidemment, Warcraft 2 peaufine, d'un point de vue de la jouabilité, plusieurs éléments de Warcraft 1, notamment au niveau narratif, au niveau des cinématiques qui s'améliorent encore. L'interface de jeu s'améliore et il rajoute des nouvelles mécaniques de combat maritime et des unités aériennes et une nouvelle ressource, le pétrole. Donc, marketing, la vague d'acquisition se poursuit aussi. Il y a un genre de merge, une fusion avec CUC International. Et d'un point de vue marketing aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils, pour vendre leurs jeux maintenant, ils misent sur le Battle Chest. Donc, c'est-à-dire tous les jeux dans une seule boîte, très facile à acheter. Donc, Warcraft 1 et les deux expansions de Warcraft 2. Et c'est aussi une récurrence. Donc, on va dans World of Warcraft, ils vont faire ça. Donc, tu vas pouvoir acheter toutes les expansions en même temps, ce qui est beaucoup plus simple que de devoir acheter plusieurs boîtes au magasin. Donc, faciliter la vente du produit.
On fait la même chose avec Diablo, avec StarCraft.
Oui, absolument. C'est une récurrence. À la même époque, Blizzard, grâce à ses fusions, a assez d'argent pour acheter une petite compagnie de jeux vidéo, Condor, qui deviendra Blizzard North en 96, et qui travaillait sur un jeu qui deviendra Diablo en 99. Il y a plusieurs innovations que Blizzard apporte au jeu, qui était au début un claymation, donc en pâte à modeler, et tour à tour. Donc, les innovations qui viennent vraiment cristalliser ce qu'on connaît aujourd'hui sous le titre de hack and slash, qui est vraiment une évolution peut-être de l'aventure graphique point and click et de l'action RPG beat'em up. Je lance ça comme ça, c'est plus des questionnements que des affirmations. Donc les innovations, c'est encore une fois, ils créent un nouvel univers diégétique complètement différent de Warcraft. Les cinématiques, encore une fois, sont exceptionnelles dans Diablo. Il y a l'intégration de la narration aussi, donc t'es pas obligé vraiment de lire les textes de tes quêtes. Un personnage secondaire te raconte l'histoire qui se passe. D'un point de vue technologique, Diablo amène des nouvelles innovations au jeu en ligne avec l'intégration en ligne de Battle.net. Battle.net, qui est une utilisation très facile, intégrée dans tous les jeux de Blizzard par la suite. Donc, c'est vraiment avec un clic, on se connecte sur Internet, on se connecte sur un réseau d'autres joueurs, permet de chatter et permet aussi de créer des parties multijoueurs publiques ou privées. Donc, on peut facilement jouer en amis à distance.
Si tu me permets pour Battle.net, oui. Parce que en fait, c'était pas à cette période-là, c'est pas nécessairement les seuls jeux qui permettaient de jouer en ligne. Ce qui était surprenant dans le cas de Battle.net, c'était vraiment un réseau. C'était pas juste t'arrivais, tu rentrais une adresse IP ou peu importe, tu te connectais pour jouer avec un ami. C'était vraiment, tu rentrais, tu te connectais, t'avais vraiment des lobbies avec des chats. Tu peux voir des amis qui étaient connectés sur les autres jeux. Tu peux voir quand ils étaient en train de jouer. Puis à ce moment-là, c'était vraiment complètement différent. Il y avait pas d'autres plateformes du genre à ma connaissance, là. Du moins faites par une compagnie. Il y avait des comme GameSpy, des choses comme ça, des services qui commençaient à apparaître, mais c'était des services tiers. Là. C'était, il y avait pas de compagnie de jeux vidéo qui avait son propre réseau comme ça, sa propre plateforme de communication. Je pense qu'assez tôt, ils se sont rendus compte que ça a toujours pas mal été la stratégie de Blizzard, mais on se rend compte assez rapidement que ça a été un point majeur pour eux autres. Ils ont vraiment créé leur propre audience. Ils ont vraiment regroupé tous les gens autour de leur jeu. Ils en ont fait vraiment un gros réseau de joueurs qui ont gardé soudain ensemble. Je pense en partie ça peut expliquer leur succès.
Oui, effectivement. Donc, ils ont intégré des infrastructures technologiques. Ils ont développé les infrastructures technologiques pour permettre une meilleure jouabilité de leur jeu. Puis effectivement, je crois que c'est les premiers à l'avoir intégré. Et surtout, d'une manière aussi simple que ça. C'était au début, quand je disais Warcraft 2, on pouvait jouer, mais il fallait se connecter par IP, s'appeler par modem. Ouais. Il y avait plusieurs manières de faire. Là, c'était vraiment click and play. Là. C'était
moi qui étais un... Ça va sonner un peu hérétique, surtout dans une émission de Blizzard, mais j'ai jamais joué à StarCraft 1 de ma vie. Sam va me tuer tantôt, mais moi j'étais un jeu de Age of Empires 2 à l'époque, puis c'était vraiment c'était correct, mais c'était vraiment c'était infernal essayer de faire une partie multijoueur. C'était pour un garçon de 8-9 ans là, oui, c'était quand même assez c'était chaotique. Je détestais ça, mais bon, oui, Battle.net définitivement c'était bienvenu.
Donc oui, effectivement, et d'un point de vue de la réception, de la vente de ce produit-là, ça a été extrêmement facile pour Blizzard. Ils ont encore eu le record à l'époque du jeu le plus vendu, ça je vais le dire souvent, je m'excuse. En janvier 97, il y avait 1,5 million de copies vendues de Diablo, 150 000 personnes en ligne. Un an plus tard, 1,5 million de personnes en ligne. Le seul problème à cette époque-là avec Diablo, c'était les problèmes de triche. C'est une manière d'infrastructure. Donc, c'est-à-dire que tout le jeu était contenu chez l'utilisateur. Donc, c'était facile de modifier les codes.
Ah, OK.
Tandis qu'avec World of Warcraft, par exemple, le serveur héberge la majorité des codes. Donc, tu peux pas aller jouer avec.
Okay,
c'est
okay.
vraiment une... Mais éventuellement, avec la refonte qu'ils vont faire avec StarCraft 2, de Battle.net 2.0, ils ont éliminé toute possibilité. Ben, à mon avis, toute possibilité de triche. Là. Quoi qu'on peut toujours... Là.
C'est rare.
C'est extrêmement difficile. C'est comme World of Warcraft. Ouais. Là, c'est... On se fait détecter assez facilement. Donc, après, Diablo entreprend une autre aventure avec StarCraft. Donc, un autre univers fictionnel... presque original, donc c'est sûr que c'est un peu bon basé sur Star Wars, on s'entend, mais surtout sur Starship Trooper.
Ouais, c'est ça, beaucoup plus ouais, Starship mais, Trooper.
Blizzard disent eux-mêmes que c'était leur rêve d'essayer d'accomplir quelque chose d'aussi grand que Star Wars, ouais. mais c'est clair que c'est basé sur Starship ouais. Trooper, le film de Verhoeven de 97, qui est lui-même inspiré du livre de Robert Heinlein de 59. Mm-hmm. Surtout pour les Zerg versus les
Marines.
Humains.
Ouais, c'est
bon,
ça.
Qui ont resté les Protoss.
Si Warhammer 40 000, les Protoss qu'on pouvait assimiler, je sais pas c'est quelle race, là, mais qui était comme une race un peu elfique du futur.
Les Eldar.
Ouais. C'est ça.
Les Eldar.
Ouais. Puis je me suis dit, c'est quoi la race qui s'est inspirée aussi pour les Zerg, là? Je pense que ça commence par un T.
Je m'en souviens plus.
En tout cas, peu importe. Bon.
Donc, c'est une fusion, en quelque sorte, de Heinlein, de Warhammer, puis de Star Wars. Moi, Star Wars, je le vois pas.
Ouais, ils voulaient créer une ouais. épique interstellaire.
Ouais, c'est un univers de science-fiction assez majeur. Bon, ils ont quand même réussi.
Ah,
ouais,
ils ont réussi. Qu'est-ce que t'en sais? T'as pas joué?
J'ai joué aux deux.
J'ai commencé à jouer à Wings of Liberty l'année passée. Je suis vraiment late to the party train.
Je vais laisser mes collègues parler plus de StarCraft, mais moi je trouve que la principale réussite du jeu à l'époque, c'est avoir fait plus qu'un simple clone de Warcraft. Ils ont, oui. sont vraiment allés plus loin. Comme ils disent, c'est pas juste un Orc in Space. Ils ont créé un nouveau jeu. Oui, c'est encore un RTS avec la même mécanique, mais des nouvelles ressources, une nouvelle enveloppe narrative qui rend le jeu complètement original.
Bon, et puis même que si je veux pas trop m'aventurer par rapport à ça, mais j'ai l'impression que la dynamique qui existe entre les types de... entre les factions, là, mais entre les...
L'équilibre.
Ouais, c'est ça. Et tu sais, comment est-ce que les Zerg ont... se développent beaucoup plus rapidement, mais sont beaucoup plus vulnérables. Toute cette idée-là d'un travail triangulaire entre les types de jeux que tu peux avoir était beaucoup plus développée dans StarCraft que dans Warcraft.
Oui, absolument, dans Warcraft 1 et 2, absolument. Parce qu'à Warcraft 1 et 2, c'est vraiment deux clans qui s'opposent. Donc, vraiment, et c'est pratiquement un copier-coller. Oui, les sorts sont différents, mais il y a quand même, c'est quand même assez clair. Tandis que là, avec la tripartition dans StarCraft, il y a vraiment un autre équilibre. Et effectivement, toutes les races sont complètement différentes, ont des mécaniques de jeu totalement différentes. Mais je vais laisser mes collègues plus en discuter sur StarCraft. Donc, StarCraft, encore une réussite commerciale. En 3 mois, ils ont vendu 3 millions de copies. En fin 98, donc à la fin de la même année, ils sortent une expansion, 1,5 million de copies, qui est encore un record pour le PC. Et à la fin 98, 4 millions de personnes sur Battle.net.
Ça n'a pas d'allure
quand même. En fin 98. Fin 99, ils ont réussi à vendre 1 million de copies en Corée du Sud de StarCraft et de l'expansion, qui est le record évidemment là-bas. Et à partir de ce point-là, ça devient le sport national de la Corée, le jeu vidéo. Mm-hmm. StarCraft en premier, ensuite là, toute la panoplie d'autres jeux qui ont suivi. 2000, c'est le lancement de Diablo 2, la suite logique, amélioration graphique, même recette gagnante, pour pas trop en dire. 1 million de copies vendues en 3 semaines, encore une fois un record. Et la cinématique encore assez bonne pour qu'elle soit envoyée à l'Academy Award,
ouais.
pour mm-hmm. qu'elle soit... par contre, il n'y a rien, ils n'ont pas reçu de prix.
Ouais, l'espèce de drifter qui rentre dans la cabane là, au début, c'est ça?
Ouais,
moi, il me semble que c'est ça. Mais bon.
En tout cas,
mes souvenirs.
Ouais, je mélange un peu sur
les drogues. L'adolescence.
Les bonnes années.
I seem to remember.
Good times.
D'un point de vue marketing, encore une réussite avec Warcraft 3. Bol record de rapidité de vente PC. Par contre, Blizzard ne donne pas de chiffres là-dessus. Mais avec l'expansion de Frozen Throne, 3,5 millions de copies vendues, qui était le 8e jeu de Blizzard à ce moment-là, qui obtient un record. Donc, en 2004 arrive le monstre qu'on pourra plus ou moins parler, ce que j'appellerais les World of Warcraft, qui est beaucoup plus qu'un jeu, ce que Espen Arcet mentionne dans le livre Place and Identity de World of Warcraft Reader, c'est que c'est vraiment plus qu'on peut voir WoW comme un parc d'attractions. Cette expression-là permet vraiment de souligner la multiplicité des expériences de jeu. Ouais. Ça va de casual à hardcore, on peut tout joueur ou tout non-joueur, comme dirait Jim, peut tirer profit de ce jeu-là, soit par l'immersion fictionnelle simplement, qui est vraiment fantastique, et au niveau compétition, soit pour dans les raids, les instances, qui est comme des puzzles en temps réel, ou le joueur contre joueur, vraiment, là, donc d'essayer de battre l'autre.
Voire même un site de rencontre pour certains aussi.
Oui, oui, et un site de socialisation, tout simplement, pour certaines personnes. Je suis encore ami avec des personnes que j'ai rencontrées sur World of Warcraft, ce qui est fascinant, que j'ai jamais rencontré.
C'est adorable.
Oui. Donc, et c'est ça, il n'y a pas juste un « wow », là, ce serait beaucoup trop complexe de rentrer dans les détails de ce monstre-là.
On va la faire, on l'a, notre émission, sur les « wow ».
Un jour, ouais, les « wow », que moi, j'appelle. Donc, ben, comme ils l'ont fait pour le RTS et pour le hack and slash, ils ont encore redéfini un genre vidéoludique, le MMORPG, et ils l'ont encore redéfini jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est pas le premier, il y avait EverQuest puis Lineage avant, mais... personne n'a jamais réussi à créer un monstre aussi important. Donc, là, pour la première version, il y a eu 4 millions de joueurs en 2005. Avec la sortie de la deuxième expansion, 2,4 millions de copies en 24 heures. En 2007, il y avait 8,5 millions de joueurs. Avec la troisième expansion, ils ont atteint 2,8 millions de copies en 24 heures et 11 millions de joueurs en tout. Et avec Cataclysm, où les choses commencent à descendre un petit peu plus, 3,3 millions en 24 heures, encore un record. Mais par contre, là, à partir de là, ça devient un petit peu plus casual que hardcore. Et les deux autres expansions, ça va être seulement de 2,7 millions et 3,3 millions pour la dernière qui est sortie l'année passée. D'un point de vue technologique, World of Warcraft amenait beaucoup de problèmes, surtout au niveau des infrastructures qu'il y avait besoin pour héberger tous les serveurs. Ça créait des problèmes dès le départ et à toutes les expansions que j'ai vécues, c'est-à-dire les 4 premières, il y a toujours eu des problèmes à chacune des expansions. C'est beaucoup trop gros. Et par exemple, il y avait une prévision de 400 000 joueurs pour la première année et il y en a eu 4 millions en 8 mois. Donc, il y a eu un petit problème. Ils ont arrêté de shipper des boîtes parce qu'ils étaient plus capables. Ils savaient que le monde n'aurait pas pu jouer de toute façon c'était les serveurs brisés. Donc, pour World of Warcraft, ils ont redéfini le marketing à plusieurs égards, là, sans faire l'énumération de tout. Un point de vue marketing, c'est intéressant, c'est la création du Worldwide Invitational, qui était notamment en Corée et en France, qui est des événements vraiment faits pour promouvoir leurs jeux, leurs activités. Et aux États-Unis, c'est connu sous la BlizzCon qui existe encore. C'est probablement une des seules compagnies qui organise eux-mêmes leur convention à côté du E3, je crois.
Il y en a d'autres, jusqu'à
récemment.
Jusqu'à récemment,
ça commence.
Minecraft, le fond, notamment, qui a été acheté par Microsoft.
Le Minecon. Je pense qu'il y avait la compagnie de LOL le fait aussi, de mémoire. Je pense que la RiotCon, un truc du genre. Qui fait Iris Studios, la compagnie qui fait Smite. L'ont fait aussi, ça commence. Là. Mais tu sais, BlizzCon, c'est encore une fois comme Battle.net, les premiers.
C'est ça, exactement.
C'est d'une autre magnitude.
C'est eux qui ont redéfini une des manières de faire en termes de mise en marché d'un jeu vidéo.
T'sais, je veux dire, Samuel et moi, on a payé cette année pour regarder le BlizzCon live, genre chez nous. Fait que oui, c'est ça.
C'est comme du pay-per-view, c'est comme de la lutte, mais c'est pas mal plus divertissant.
Ouais, c'est ça. Dis pas ça à Jim,
Donc, en gros, pourquoi la Blizzard a marché si longtemps que ça? D'un point de vue technologique, ils sont restés sur le PC. Peut-être une industrie qui évolue plus progressivement que la console, que c'est vraiment des révolutions de génération en génération. Donc, ça a été peut-être plus facile pour eux de toujours rester au top de l'industrie. Ils ont toujours réussi à créer les outils nécessaires. Donc, comme on disait, Battle.net pour World of Warcraft, leur propre infrastructure de serveurs. Et ils ont toujours su tirer profit de la technologie pour faire la promotion de leurs jeux, notamment avec les cinématiques, qui est toujours un moment fort quand Blizzard sort une cinématique. D'un point de vue marketing, toutes les franchises ont eu du succès, à tout le moins moyennement. La pire, ce serait Warcraft. Pourquoi ils ont toujours fait des si bons jeux? D'une part, ils ont toujours été... C'est toujours les mêmes trois cofondateurs qui sont au centre des décisions créatives. Et essentiellement, si vous avez regardé Blizzard Retrospective, c'est essentiellement deux nerds et un métalleux.
Wow!
Jack Pierce, c'est vraiment un métalleux avec une grosse voix de chanteur métal. Et quand on regarde les premières personnes qui ont été engagées, qui possèdent maintenant les postes clés de la compagnie, c'est soit des nerds très, très nerds ou des métalleux aux cheveux longs.
C'est la recette. Donc, du succès de pas mal n'importe quoi. Si tu t'inclus...
Donc, c'est toujours des geeks qui font des jeux pour des geeks, même encore aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que les jeux... Ouais. Donc, c'est sûr que pour... certains, j'ai pas nommé les derniers jeux qu'ils ont fait, donc Heart of the Stone, Heroes of the Storm, ouais. Hearthstone, ouais. Et le prochain qui s'en vient, Overwatch. Ben, mais ça serait
discussion. On en parle tantôt.
Ouais, j'ai pas de... Mon propos ne tient pas pour ces trois jeux-là, je tiens à le préciser, parce que ça, c'est... Mes questionnements sont en maturation. Ils ont aussi évité de publier des mauvais jeux comme Adventure of Warcraft en 2000 qui était un point and click qui aurait probablement pas marché et un nouveau MMORPG autour de 2008 Titan.
StarCraft Ghost aussi.
StarCraft Ghost.
Oh oui,
j'ai manqué.
Ouais. Hey, c'est vrai.
Ouais, c'était supposé être un jeu, ben, enfin, les détails étaient un peu flous, mais c'était un jeu de tir à la première personne.
Un third-person shooter, ouais. Avec une ghost, avec justement Nova. Ouais.
Puis ils en ont parlé pendant longtemps, mais je pense que en 2006, ça a été annulé finalement.
C'est vrai, hey, je me rappelle de me rappeler de cette histoire-là.
Officiellement, il a été reporté indéfiniment en 2006.
Un vaporware, comme on dit.
Ouais, c'est ça.
Il va sortir dans 10 ans, puis ça
non,
va être...
sûrement pas.
Mais quand même, Blizzard ont eu le courage de ne pas sortir des mauvais jeux. Quand ils trouvaient que le jeu, par exemple, Titan était réalisé à 85%, c'est des millions de dollars d'investissement. Ils ont dit non, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que nos jeux ressemblent à ça. On le prépare pas. Donc, c'est assez incroyable. Et pour finir aussi, les univers fictionnels fantastiques et de science-fiction qu'ils ont créés, qui peuvent se comparer aux grands récits mythiques, soit Tolkien, Star Wars, Dune, notamment Warcraft, StarCraft et Diablo, qui sont complètement différents, les trois, qui va mener vers le film. Ils ont réinventé et cristallisé vraiment des genres vidéoludiques, le RTS, le hack and slash, le MMORPG. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que leurs jeux ont toujours permis une création de la part des joueurs, la création des cartes dans les RTS et aussi dans World of Warcraft, ce qui était fort intéressant, c'est toutes les interfaces que les joueurs pouvaient créer qui ont été réintégrées par après dans le design du jeu officiel.
Mais c'est très bien dit, merci beaucoup, parce que c'est ça, on voit que Blizzard, en ayant un hard line sur la qualité, ils se permettent d'être des innovateurs. C'est des gens qui font comme non, il faut qu'on... On va rien présenter à 80%, on va tout présenter à 100%. Puis en présentant tout avec une grande confiance, ils deviennent le... Je veux pas dire l'étoile du Nord du jeu vidéo, parce que c'est peut-être de dire beaucoup.
Non, mais je pense que t'as quand même raison. On fait un petit peu comme on peut penser, mettons, avec... dans les années quand Nintendo avait sorti son Seal of Approval, qui était comme un gage de qualité. Ouais. Un peu de la même manière, Blizzard sort un jeu, ils ont une réputation que peu importe ce qui va arriver... C'est peut-être que tu vas être en désaccord avec certaines décisions de design. C'est presque unanimement considéré comme des bons jeux.
Ouais.
Ils n'ont jamais sorti de navet, puis je pense que c'est une réputation qui leur fait du bien.
On s'entend qu'Overwatch, c'est la première nouvelle franchise, parce que Hearthstone, je considère que c'est dans le même univers que Warcraft et WoW, tout ça. Mais Overwatch, c'est la première nouvelle franchise en 20 ans peut-être? À peu près quelque chose comme ça.
À peu près loin.
Ouais, 2000, c'est ça. Ouais. C'est considérant que la dernière nouvelle franchise qu'ils ont sorti, c'est quoi? Je sais pas. StarCraft, peut-être. Ouais. Ou Diablo.
Diablo qui vient après. Ouais.
Ouais, c'est ça. Peu importe. Mais n'empêche que ça fait 20 ans, c'est la première franchise. Fait que s'ils sortent quelque chose, c'est parce qu'ils sont convaincus que ça va fonctionner.
100% certain. Ouais. Puis avec ce niveau de certitude-là, vient. C'est comme ben, c'est ça. En Trendsetter, les gens font comme OK, non, regarde, ils l'ont fait, on suit. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi Diablo, j'ai l'impression. Puis c'est un peu ça que tu venais parler, Samuel, si je me trompe pas.
Ben, en fait, moi, personnellement, j'ai joué à tous les jeux de Blizzard. Je suis ici parce que j'étais un gros fan de la compagnie en général, mais j'ai toujours plus aimé l'aspect compétitif de leurs jeux. Comme Diego parlait là, avec les avancées technologiques qu'il y a eu avec Battle.net et tout ça, ça permet aux gens de se connecter. Puis c'est un phénomène qu'on a un petit peu moins connu en Amérique du Nord. Par contre, comme il dit, à partir de StarCraft, spécifiquement, j'ai aucune raison pourquoi, honnêtement, là, mais StarCraft a vraiment capturé l'imaginaire en Corée du Sud. Mm-hmm. Et c'est devenu vraiment très gros. Et si ici, ça existait déjà, je ne veux pas dire nécessairement qu'il n'y en avait pas, on pense notamment à la série Street Fighter, qui avait des événements monstrueux et qui était excessivement populaire, la compétition. C'est des petits événements. Il y avait des événements ici et là, dans des villes, il y avait une convention pour quelque chose, ils en profitaient, ils faisaient un rassemblement, ils jouaient à Street Fighter. Mm-hmm. Ce qui s'est passé en Corée, c'est vraiment des événements majeur, comme il dit, c'est devenu un sport national. Tu payais pour un abonnement de câble. Il y avait deux chaînes qui étaient dédiées à StarCraft presque 24 heures sur 24. C'était vraiment énorme. Et là-bas, les joueurs sont devenus vraiment des vedettes. Comme on peut penser, mettons, en Europe avec les joueurs de football, c'était vraiment des vedettes. Le terme coréen pour ça, on appelle ça un bon joie, qui veut clairement dire comme ce sont des dieux. Fait qu'il y a eu plusieurs comme joueurs qui vraiment ont gagné 80% de leurs matchs, qui devenaient comme des vedettes. Il y avait des commanditaires, le maillot avec Samsung, tous les noms de compagnies, des gros montants d'argent. Fait que ça a vraiment atteint un niveau qu'on n'a pas connu en Amérique du Nord. Fait que le monde trouve ça fou. Mais depuis la sortie en 97 puis en 98 de l'expansion, c'est devenu vraiment énorme. Puis là, il y avait un petit peu les problèmes technologiques, justement. C'est pour ça que ça n'a pas explosé immédiatement, mais là-bas, c'était très, très populaire. Il reste qu'il y avait des publics compétitifs. Il y avait des joueurs en Amérique du Nord, en Europe, qui après ça partaient puis allaient en Corée pour aller faire des compétitions. Dans ce temps-là, les montants n'étaient pas si gros. Je veux dire, on parlait quand même de, mettons, 10 000, 20 000 $ de prix. C'était peut-être pas assez pour vivre de ça, mais déjà, il y avait des bons montants. Ce qui est vraiment intéressant, à mon avis, c'est que de cette manière-là, je pense que StarCraft est le premier jeu qui a atteint une telle envergure de jeu compétitif. C'était plus des petites compétitions locales, c'était vraiment... Ça commence à prendre une tournure internationale. Et il faut le rappeler, dans le cas, mettons, de StarCraft et son expansion, qui sont les deux sorties en 98. 98, c'est, il y a déjà un bon moment. Personnellement, j'avais 8 ans. Les compétitions ont seulement cessé en 2011. Donc, il y a une très grande période. Là. Ça n'a pas duré 5 ans. Là. Jusqu'en 2011, qui est un an après la sortie de StarCraft 2. StarCraft 1 et StarCraft 2, c'était... En fait, les deux, il y avait des compétitions qui se faisaient. Et quand... Et si on regarde un petit peu l'historique de Blizzard aussi, on va remarquer que peut-être dans les années 2007-2008, exemple notamment dans World of Warcraft, il y avait de l'Arena, qui était dans le fond des compétitions de joueurs. Ils se battaient pas contre l'environnement. C'était vraiment des affrontements entre les joueurs eux-mêmes. Ils ont essayé, parce que ça avait commencé, il y a d'autres jeux qui avaient commencé, notamment Dota, Defense of the Ancient, qui était une modification pour Warcraft 3. Ça avait commencé à exploser un peu le e-sport. Il y avait des gens qui avaient un plaisir à regarder ça, il y avait des équipes qui se créaient. Et ça fait des années qu'on peut voir que Blizzard voulait avoir un morceau du gâteau. Notamment avec World of Warcraft, comme je disais, les arenas, ils essaient d'aller le chercher. Quand Diablo 2 est sorti, il avait parlé de faire des arenas. Finalement, ça a jamais sorti. Mais ça fait des années qu'on voit que Blizzard voulait aller chercher un morceau du gâteau. Parce que ce qui se passait en Corée, Blizzard avait malheureusement pas de contrôle là-dessus. C'était des ligues créées par les Coréens, les commanditaires étaient Coréens. Et ce qui est arrivé avec StarCraft 2, c'est que Blizzard ils ont remodelé, si on veut, ce qu'on appelle les WCS, qui sont les World Championship Series. Ouais. Ils ont vraiment répertorié, ils ont pris le contrôle, et là, ça a vraiment explosé. Là, on parle des fois, là, on le voit aussi avec les Dota Invitational, puis League of Legends, c'est des montants où on tombe dans les millions, les commanditaires, c'est très gros. Dans le cas de StarCraft 2, quand ils font les finales de WCS, puis des choses comme ça, ils remplissent des stades.
Des stades.
Ouais. C'est énorme. Et il y a des gros montants et il y a des joueurs qui font leur vie de ça. Je pense notamment, mettons que je prends un joueur comme ça au hasard, mettons Life, ouais. c'est son acronyme, qui est un jeune joueur coréen qui joue peut-être depuis 3 ans. En total, dans sa carrière, de mémoire, il a fait à peu près 350 000 $. Fait que c'est sûr que les joueurs de haut niveau sont capables de vivre de ça. Mm-hmm. Donc, je pense que l'aspect du e-sport en général, surtout dans la série StarCraft, mais on voit que Blizzard a toujours essayé d'aller, si vous voulez, comme piger un peu là-dedans et chercher son morceau. Ouais. Je pense que c'est très intéressant. Puis comme on le voit avec, Alex m'en a parlé, avec Hearthstone, avec Overwatch, c'est des jeux qui, dans leur design, ils vont chercher l'aspect du spectacle, peut-être. Ils essayent, on voit vraiment qu'il y a des décisions de design qui vont dans cette direction-là. Puis pour ce qui est de l'aspect compétitif, je finirai peut-être juste sur une parenthèse. De récemment, pour cette année, il y a eu des changements qui ont été annoncés. Parce que la façon que ça fonctionnait un peu pour la compétition avec StarCraft, en fait, c'était beaucoup des tournois indépendants. Il y avait le fameux tournoi DreamHack en Suède qui s'auto-gérait. Il y avait le MLG en Amérique qui était le Major League Gaming, qui était un autre gros tournoi. Il y avait les IPL. Il y avait beaucoup de tournois indépendants, si on veut. Et Blizzard n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Et là, récemment, Blizzard a acheté beaucoup des compagnies mères de ça. Ils ont rapatrié ça. Et ce qu'ils ont fait cette année, moi, je suis pas entièrement en accord avec ça. Ça a toujours été connu que les Coréens ont toujours dominé la scène compétitive. À un point qu'il y en a qui disent que c'était impossible pour ce qu'on appelle... Parce que c'est quand même drôle dans ce cas-ci. Ce sont les Nord-Américains. Les Blancs, ce sont nous, les Foreigners.
Oui, on est Gaijin. Ouais.
Exactement. Mm-hmm. Fait qu'on a un Blanc qui s'en va en Corée du Sud. C'est le Foreigner Hope. C'est le Blanc qui savent affronter les Asiatiques qui sont vraiment très bons.
L'espoir d'une nation.
Ouais, the tiny white hope.
Exactement. Puis récemment, les Coréens sont toujours été plus dédiés aussi à ça, mais ils ont toujours eu plus de succès. Et récemment, pour cette année, la décision qu'ils ont pris, c'est que beaucoup de ces tournois indépendants-là, qui étaient à l'extérieur de l'Asie, ils ont décidé de limiter les places. Les Coréens n'ont plus le droit d'y participer.
Hein?
Ouais, ils les ont limités aux tournois en Asie. Il y a encore une ou deux places de tournois qui sont comme des wild cards où ils peuvent aller les chercher. Mais à 90%, les joueurs européens et américains se sont fait donner les places parce qu'ils disaient qu'on voyait pas assez ces joueurs-là quand on arrivait à les finales. On avait une finale avec 16 joueurs. Il y avait une personne qui n'était pas coréen. Ils perdaient au premier tour. C'était fini, c'était juste des Coréens. Fait qu'il y a comme un gros débat là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont contents de voir les joueurs d'ici prendre la place et aller là-bas. Mais en même temps, quand on parle d'une pure compétition, il y en a qui vont dire qui est le meilleur gagne. Moi, je suis de cet avis-là un peu. Ouais. Mais en même temps, les derniers événements, il y a l'air d'avoir eu beaucoup de succès. Fait que, est-ce que c'est la bonne recette?
Je sais pas. Ça varie. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça varie, encore une fois, ça varie d'un jeu à l'autre. StarCraft 2, bon, de ce que j'ai vu au BlizzCon, c'était les Asiatiques, en général, dominaient. Au niveau de Hearthstone, ça avait l'air d'être vraiment 50-50, américain, européen, tout ça. Mais définitivement, au niveau de Heroes of the Storm, là, c'est, ben, probablement l'équipe gagnante, c'est une équipe nord-américaine qui a gagné cette année, qui sont champions mondiaux jusqu'à l'année prochaine. Puis les, bon, c'est sûr que les Coréens sont restés quand même jusqu'au final, mais n'empêche que, au niveau du balancement des nations, si je peux dire.
C'est des jeux avec des gameplays différents aussi. Ouais, on va remarquer souvent que les Asiatiques vont beaucoup plus dominer dans des jeux de style Twitch, donc des jeux où c'est une coordination œil-main. Faut être très rapide, beaucoup de choses comme ça. Les Nord-Américains, comme dans des jeux comme Counter-Strike, où il faut être très rapide aussi, mais ça n'a pas c'est pas 400 clics par minute que tu dois faire, c'est pas le même genre de gameplay. Les Nord-Américains ont une place beaucoup forte, beaucoup plus forte là-dedans. Ouais. Ce qui est notamment le cas justement des jeux Hearthstone puis Overwatch, dont je pense que tu veux parler.
Mais en fait, Hearthstone, c'est quand même étonnant parce que c'est quand même, n'empêche, t'as aucun besoin de réflexe, là. Ça reste un jeu de cartes numériques dans lequel on place des cartes, tout ça, mais beaucoup de stratégie. Mais Hearthstone, c'est ça. En fait, Hearthstone, c'est pas mal dans le temps, si on peut dire, le triptyque majeur de Blizzard, c'était Rock and Roll Racing, Blackthorn, même si Jim l'a oublié, et Las Vikings. C'est quand même important, Blackthorn.
Ouais, ok, c'est ça.
C'est quand même un des très importants. Là. Puis, tu sais, après ça, un peu plus, là, on parlait justement le deuxième triptyque, c'était Warcraft, Starcraft, Diablo. Et là, le nouveau triptyque, l'avenir, à mon avis, mais en même temps, c'est un peu plus compliqué que juste trois, c'est Hearthstone. Heroes of the Storm et Overwatch, qui sont pas mal les trois.
Je viens de le googler, Blackthorn Run, puis ça vient de me revenir.
Ah ouais, ça vient de te rentrer dedans à grand coup de nostalgie.
Ben,
c'est tellement difficile comme jeu.
Mais c'est aussi parce que j'ai pas embarqué dans Blizzard quand c'est devenu massivement populaire. Moi, j'ai arrêté à Diablo 2, en quelque sorte. Fait que ces jeux-là, c'est à rebours que je suis comme « Oh shit, c'est ce studio-là! »
Fait que t'es un hipster vidéoludique.
Oui.
Ok, cool. C'est bon. C'est mis sur la table. C'est parfait. Mais bon, Hearthstone, justement. Hearthstone, en fait, qui est plutôt étonnant parce que Hearthstone, à la base, la bêta qui a commencé en 2013 et qui est sortie officiellement en 2014. En fait, c'est pas si original que ça en tant que tel. N'empêche que c'est un bon jeu. Mais Hearthstone est inspiré de World of Warcraft, The Trading Card Game, sorti en 2006 et qui a sorti plusieurs collections, plusieurs ensembles jusqu'en 2013, qui lui-même est inspiré de Magic the Gathering. Magic the Gathering qui a inspiré de nombreux jeux, bon, comme Pokémon, The Trading Card Game, Digimon, Yu-Gi-Oh, Harry Potter, The Trading Card Game. Oui, ça existait. Okay, j'étais un fan fini d'Harry Potter à l'époque. Et mais en fait, c'est pas non plus la première tentative War the Trading Card Game au niveau des jeux de société, d'étendre ses franchises un peu des jeux de cartes, tout ça. On pense notamment à un module de Donjons & Dragons pour Diablo 2. Hein? Rien de moins. Un jeu de Warcraft, un jeu de stratégie de Fantasy Flight Games. Deux gros jeux de World of Warcraft. Un qui était plus abordable à une cinquantaine de dollars et le gros mastodon à 125$. Et StarCraft qui a eu également une expansion, donc StarCraft en 2007, StarCraft en 2008. Mais bon, malheureusement, semblerait-il que Blizzard a abandonné tout espoir de jeu de société. C'est fini, c'est Hearthstone, à Star, on se concentre seulement là-dessus, ce qui n'est pas très grave, parce que Il y avait Jim ne semble pas d'accord.
Ben, mais... c'est que, en fait, j'ai un ami qui m'a invité à une game de StarCraft Tabletop, puis juste le nombre d'unités, en fait, les pièces, ouais, nécessitait qu'on devait tous jouer à une table différente. Tellement, oui, qu'il y a de units, c'est immense. Fait qu'on pouvait pas s'asseoir.
C'est ça. C'était ça le problème aussi.
Il y a des grosses
limites.
C'était
très dispendieux, puis ça venait chercher juste une niche de joueurs. Tandis, oui, que, justement, un Titan à la base, c'est un jeu gratuit. Donc, ça, ben, en tout cas, à la base,
oui.
Ouais, c'est, ouais. On va dire, en tout cas,
c'est gratuit jusqu'à temps que tu craques.
Ouais, c'est ça. Exactement. Mais, en fait, il y a une... Donc, Hearthstone, en fait, n'est en fait qu'une simple réimplémentation, en fait, de World of Trading Card Game. On retrouve, en fait, déjà des armes, des pouvoirs. Le principe de base reste le même. Donc, chaque joueur a un deck de héros, dans lequel contenait, bon, plusieurs trucs, qui est exactement la même chose. Et il y avait déjà des donjons dans World of Trading Card Game. En fait, il y avait des raid decks qui avaient acheté un mode coopératif par la suite. Donc, chaque joueur avait un héros. Il y avait un deck qui était comme une sorte d'intelligence artificielle. On retournait des cartes, on relevait les défis, tout ça. Mais bon, Hearthstone, encore une fois, a repris ce principe-là avec BlackRock, c'est quoi l'autre, League of Explorers, Naxxramas, tout ça.
Ouais, et qui coûte pratiquement rien, c'est-à-dire 25$ chacune, ouais, dans un jeu gratuit.
Ouais, c'est ça, mais là, en tout cas, j'ai investi plus que 25$ dans ce jeu-là.
Ça valait-tu la peine? Question personnelle?
Ouais, okay. Ouais. Non, pour vrai, oui. Oui. C'est vraiment intéressant. Il s'améliore de plus en plus à chaque aventure. En plus, on rendait à la troisième avec de League of Explorers, puis c'était très intéressant.
Ouais, c'est juste que, ouais, je me demandais le contenu, si le contenu valait, ouais, un tant soit peu le montant.
Il vaut la peine, puis surtout que les cartes qui sont, tu sais, que t'as facilement, tu fais juste compléter les ailes du donjon, sont automatiquement intégrées dans la méta. T'as pas vraiment le choix d'avoir ces cartes-là dans ton deck si tu veux être capable de battre tes adversaires par la suite dans du PvP. Mais la grosse différence, en fait, c'est que Hearthstone, ben en fait, World of Trading Card Game avait 60 cartes dans le deck, alors que Hearthstone en a 30, ce qui fait que ça fait des parties beaucoup plus rapides, beaucoup plus explosives, beaucoup moins longues aussi. Gérer un deck de 60 cartes, ça peut être quand même assez corsé, déjà qu'avec 30 cartes, ça peut être difficile des fois. Puis ça, c'est un signe, justement, tu sais, on parlait d'e-sport tout à l'heure, d'un truc qui est peut-être un peu moins accessible pour certaines personnes, mais en fait, Hearthstone, il semble un peu plus casual, justement, pour un grand nombre de joueurs, ce qui fait que la scène, peut-être la scène compétitive n'est pas super importante en ce moment, mais...
Juste le fait que ce soit disponible sur ce lab, sur Apple, ouais, je pense que ça en dit gros sur le,
ouais,
public, là.
Vraiment.
Puis encore, c'est ça, ça vient aussi dans l'idée que Blizzard veut une part du marché d'à peu près tout, là.
Oui,
c'est bon, ça.
Mais ils veulent tellement une part du marché que, en fait, ils l'ont eu, là, leur part du marché, parce que l'automne passé, vraiment, c'est tout récent, Magic a décidé, ils sont en train de faire un jeu de cartes là, numérique. On va essayer ça. Ils ont sorti Magic Origins et c'est un flop. Malheureusement,
ouais,
c'est un flop.
Mais c'est pas le premier essai en Magic de Gollum. Ça fait des années. Ils sont très contrôlants.
Là, ils ont sorti une nouvelle, mais ça fonctionne pas.
Ouais, ils avaient fait un jeu PC à l'époque de jeu de cartes, je crois.
Il y a eu plusieurs versions, mais ils ont jamais vraiment voulu mettre tout le jeu de Magic de Gollum. Ils ont jamais voulu vraiment aller all-in et les joueurs n'ont jamais voulu embarquer. Ils ont dit « Tu me donnes pas le jeu au complet, j'ai aucune raison d'investir. » Puis Blizzard l'a fait, ils ont essayé d'aller all-in, puis clairement, il y a eu un gagnant.
Ouais, définitivement.
Mais ça, c'est peut-être dû au fait que Magic avait une composante physique avant. Hearthstone ne l'a pas. Tu sais, c'est comme...
Ben, Hearthstone...
Tu sais, quand t'achètes une Single Vampire, ben t'as la Single Vampire. Ouais. Là, t'essaies de transitionner le marché à dire, là, t'as comme le JPEG... Les gens de Magic sont peut-être plus résistants. Quant à Hearthstone, t'as jamais développé l'habitude d'avoir...
C'est ça. Puis surtout qu'il y a des cartes en plus que, tu sais, Hearthstone, c'est une implémentation vraiment plus que parfaite de World of Trading Card Game, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gérées par le système qui n'auraient pas pu être gérées par, je veux dire, le cerveau humain. Il y a des cartes qui ont...
Ouais, c'est le fait que ça soit automatisé, ça.
Ouais, c'est ça, justement, le nouveau keyword qu'ils ont racheté dans Hearthstone récemment, qui est Discovery, c'est littéralement, il y a 3 cartes qui peuvent être compatibles avec ton deck. Mais c'est pas des cartes que tu possèdes nécessairement dans ta collection. Fait que le système, un cerveau humain n'aurait pas pu faire apparaître une carte qui existe nulle part pour justement la mettre en jeu. Fait que ça, c'est super. C'est vraiment. En fait, c'est vraiment cool. C'est vraiment intéressant. Puis c'est justement pourquoi c'est plus casual, parce que t'es pas obligé nécessairement de posséder toutes les cartes du jeu pour que ça soit intéressant. Ça aide, mais bon, c'est. Puis même des cartes aussi, bon, tu peux décider de les désenchanter pour faire de la poudre. C'est un peu bizarre, dis-moi.
Ouais.
Puis après ça, tu construis d'autres cartes, bon, etc. Fait que c'est même les cartes que tu veux plus, ben, tu peux les enlever puis en fabriquer des nouvelles. Fait que ça, c'est quand même, ça équilibre un peu, tu sais. Ils viennent chercher des... J'essaie de me convaincre. Je suis comme un crackhead qui essaie de se convaincre. Là, c'est marrant d'entendre.
Là, tu te défais pour faire plus de poudre, pour créer plus de cartes, pour faire plus de poudre.
C'est un jeu gratuit. Tu mets 22$ pour des cartes, puis ça donne de la poudre. Ça a l'air d'un blanchiment d'argent.
J'aurais la même impression de parler World of Warcraft.
Ouais, c'est clair.
On te juge pas.
Mais, fait que suite à ce malaise
de
Hearthstone... Non, mais pour vrai, on va passer à l'autre tout de suite. Heroes of the Storm, parce qu'on parle de jeux casual. Mais, ouais, Heroes of the Storm, en fait... qui est la réplique de Blizzard, la réplique casual de Blizzard pour Dota et LoL, qui est vraiment un jeu beaucoup plus accessible pour les joueurs, ne serait-ce que, en fait, la plus grosse différence, d'abord, c'est le niveau, la montée de niveau simultanée. Hein. Contrairement aux autres, les compétiteurs, LoL, Dota, etc., chaque joueur monte chacun pour soi de niveau, tandis que dans Heroes of the Storm, tout le monde monte en même temps. Ce qui fait que, bon, si jamais il y a des inégalités, ben, tout le monde peut s'entraider, tout ça. Il y a beaucoup de compétition, même au sein d'une même équipe dans LoL. C'est beaucoup de toxicité. C'est-à-dire, bon, des joueurs qui t'envoient chier à tour de bras. Quoi qu'il y en ait de plus en plus dans Heroes of the Storm, malheureusement.
Ouais.
Ça va avec la popularité d'un jeu, faut croire. Mais ce qui est super intéressant, en fait, c'est que Heroes of the Storm, en fait, Blizzard, comme dans beaucoup de jeux, prennent des risques et vont essayer des trucs qui se font pas ailleurs avec des personnages vraiment uniques. On pense à Cho'Gall, notamment, qui est un personnage contrôlé par deux joueurs. Donc, il y a un joueur qui va contrôler le mouvement. Il y en a un autre qui va contrôler plus ce qui est attaque à distance, etc. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement difficile à jouer. Ça a pas, il est pas vraiment dans la méta pour le moment, mais ça reste un personnage super intéressant. Il y a Abatur aussi, qui est un spécialiste. Oui, vas-y.
Mais les trois Vikings aussi.
Oui, les Lost Vikings. Les Lost Vikings, c'est trois en un. Faut que tu comprennes trois personnages. Ouais, je sais. Mais t'es super bon pour le jouer en plus. Je sais pas pourquoi t'as si mal à la tête que ça. Mais bon, c'est encore une fois une part du marché vers le casual. Puis des crossovers aussi, parce que justement, ça a permis justement à beaucoup de joueurs d'entrer immédiatement dans Heroes of the Storm, parce que c'est beaucoup de personnages qu'ils connaissent déjà. Donc souvent, ils ont une bonne idée un peu des compétences que ces personnages-là ont, ne serait-ce que parce qu'ils ont joué à Diablo 3 ou peu importe. Ça aide beaucoup. Mais encore une fois, en matière de casualness, comparativement à LoL, Dota, la scène compétitive n'est pas encore au point. Ouais. C'est quand même la première année officielle que le jeu est sorti. Il y a eu un tournoi mondial, mais pour l'instant, c'est plutôt calme à ce niveau-là. Ouais, peut-être qu'Overwatch va changer ça.
Verra.
Mais on verra avec ça.
Sur ce, on conclut. Merci énormément, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et si vos souvenirs sont aussi puissants que les miens, vous allez vous rappeler de ceci.
Mon nom, c'est Jean-Claude Van Damme, et je suis un mage. Le corps à corps pour moi maintenant, it's over. Maintenant, je lance des sorts. Si tu me cherches trop, je te transforme en chib. Un mouton. Parce qu'on est tous un peu moutons. Tu sais, je suis Jean-Claude Van Damme, je suis un mage. Et toi, à quoi tu joues?
World of Warcraft, essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. It's a tragic carol. We'll be right back.
c'est les rendez-vous du cinéma québécois présentés par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de série noire Jean-François Rivard et François Letourneau. Les rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Laxex, Eman & Blooper et toute une programmation pour la Nuit Blanche, le Elvis Graton Picture Show, présenté par Le Casino, co-présenté par Belle, ainsi que le méga party Nuit Blanche Série Noire. Rapprochez-vous de votre cinéma sur québeccinéma.ca.
Sois pas plus catholique que le pape et réserve tes dates pour la cuvée d'hiver. Profite du meilleur de Montréal à la 4e édition de la cuvée du 25 au 27 février prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktail, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Kate Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire swinguer toute la soirée. Du